Donc, première particularité, cette population indienne très très forte et contre laquelle s'est exercée une énorme violence coloniale jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la guerre qui, notamment dans les années 80, a, on va dire, fait connaître un petit peu à l'extérieur la situation du Guatemala. Première chose. Deuxième chose, c'est le premier pays du continent à avoir réussi à faire, et là on touche la question de la terre, dont on a parlé déjà pas mal, c'est le premier pays où un gouvernement légitimement arrivé au pouvoir a tenté de faire une réforme agraire. Donc là, on est en 45, il y a une tentative de réforme agraire. Il se trouve que une très très grande partie des terres sont possédées par la United Fruit Company, vous savez, la fameuse les bananes et tout ça, les républiques bananières. Donc voilà, une compagnie états-unienne. Il y a cette tentative de réforme agraire, mais malheureusement, dans la United Fruit Company, il y a deux, notamment parmi les propriétaires, enfin les actionnaires plus exactement de la United Fruit, il y a deux frères, les frères Dulles, qui sont respectivement, je crois, secrétaires d'État des États-Unis, et l'autre frère, je ne sais plus si c'est John Foster et comment s'appelle l'autre frère est nommé directeur de la CIA, qui vient de se former, et donc le Guatemala a pour particularité, troisième particularité, d'être le premier pays du continent et le deuxième au monde à vivre un coup d'État organisé par la CIA en 54. Coup d'État destiné à stopper cette réforme agraire. Et dernière particularité du Guatemala que je voulais mettre en lumière, que j'ai déjà évoquée, malgré cette situation donc assez difficile, hein, et ce coup d'État de 54, le coup d'État d'avant, je ne sais pas si vous avez une idée, 54, 53, vous avez une idée du pays, non? Ça ne vous rappelle rien, premier coup d'État de la CIA, c'est l'Iran, après que Mossadegh ait nationalisé le pétrole. Je pense que sur les questions d'environnement, de ressources, il y a de quoi réfléchir. Donc, dernière particularité que je voulais souligner, c'est le fait que le Guatemala donc, a réussi à juger dans ses propres tribunaux le dictateur Efraín Ríos Montt, qui a, pendant les années 80, vraiment mené la partie la plus dure de la guerre. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles il me semble que le Guatemala est tout à fait intéressant, bien que ce soit un pays relativement petit, relativement peu connu, mais je pense qu'au contraire, il gagne à être penser comme un exemple de beaucoup de choses très importantes. La deuxième chose que je voulais mettre en lumière sur le Guatemala, c'est justement donc la longue histoire de colonisation. Et la colonisation, donc, comme on le sait, mais je pense que c'est important de le répéter, ce n'est pas quelque chose qui appartient au passé, ce n'est pas un moment particulier, c'est vraiment une série de vagues qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et alors, dans le cas du Guatemala, il y a bien sûr la colonisation qui commence en 1492. Et vous savez que ce processus colonial, c'est ce qui marque aussi notre modernité occidentale. Hein, et c'est son envers qui est indissociablement lié, les Lumières, les droits humains, etc. C'est indissociablement lié à ce processus colonial. Ce n'est pas un à côté. Donc ce processus colonial, pour passer rapidement, hein, il se prolonge ou il se redouble à la fin du 19e par une importation, ou oui, enfin une invitation bienveillante, notamment à des populations européennes, notamment allemandes, à venir s'installer dans notamment le nord du pays, qui est une région montagneuse très boisée, qui après sera connue comme la Franche transversale nord, venir s'installer sur des terres en partie indiennes, hein, elles étaient toutes indiennes, elles n'étaient pas forcément très très peuplées ces zones-là, mais enfin quand même ça repousse ces populations indiennes, des Allemands qui sont invités à venir cultiver le café. Le café devenant, au tournant du 19e, début 20e, la production principale et la ressource principale du Guatemala. Donc c'est une espèce de deuxième vague de colonisation. Il y a une troisième vague de colonisation interne, celle-ci, je vais rapidement, hein, mais justement après le coup d'État, donc, je vous rappelle le processus de réforme agraire, il s'agit de répartir la terre, et le coup d'État amène au contraire enfin, fonctionne avec l'envoi de conseillers états-uniens, et les conseillers états-uniens disent non, mais pourquoi répartir la terre, pourquoi faire une réforme agraire et tout, il suffit de faire au contraire un processus de colonisation interne, hein, pour résoudre les tensions sur la terre. Donc, envoyer des gens dans les terres qui sont réputées vides, qui sont en fait des terres indiennes également. Donc, troisième vague de colonisation interne dans les années 60 sous l'égide des conseillers états-uniens. Vague de colonisation qui se dirige de nouveau vers le nord du pays. C'est aussi dans le nord du pays, je simplifie, je résume un petit peu, qu'apparaît dans les années 60, en réaction à tout ça, une lutte armée qui va durer, en fait, enfin, qui va déboucher sur une guerre qui a duré à peu près 35 ans. Ça commence en 60 et les accords de paix de 96 y mettent une certaine fin. Et puis, il y a une dernière vague de colonisation qui m'intéresse par rapport à mon propos, qui est depuis grosso modo 2004, une nouvelle vague de colonisation extractiviste, minière notamment, et aussi pour l'eau, et aussi d'ailleurs il y a de l'or, de l'uranium, il y a du pétrole de très bonne qualité sous la forêt. Donc cette dernière vague de colonisation extractiviste, c'est dans ce cadre-là qu'apparaît la réflexion des féministes communautaires de défense du territoire terre et défense du territoire corps. Et tout ça se passe dans cette même frange transversale nord. Alors là, je ne donne pas beaucoup de détails. Si vous avez un intérêt plus spécifique, vous trouverez tous les détails très argumentés, très développés dans le dernier chapitre de cet ouvrage. Qu'est-ce qui est important de dire ? Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur le processus peut-être d'abord qui a abouti à la condamnation de Rios Montt, donc. Dans les dernières années de la guerre, l'Église catholique progressiste de tendance de la théologie de la libération commence à recueillir des témoignages des violences qui se sont déroulées de manière générale et puis très progressivement commence à recueillir des témoignages aussi sur les violences qu'ont vécues les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui viennent témoigner de violences, mais la plupart du temps elles témoignent de violences commises contre les hommes, contre d'autres personnes. Finalement, petit à petit, certaines témoignent de violences qu'elles ont vécues elles, et finalement, parmi ces femmes, certaines témoignent de violences sexuelles, notamment qu'elles auraient vécues elles-mêmes. Ok, c'est un petit commencement. Je passe très rapidement, mais la femme dont je vous ai parlé au tout début, celle qui avait perdu la vue pendant plusieurs années suite aux tortures sexuelles qu'elle a subies elle-même, et celle qui prend la responsabilité de coordonner d'abord un chapitre de du rapport sur les violations des droits humains, puis de coordonner un travail très progressif de plusieurs années d'aller rechercher dans les communautés, parmi les groupes qui sont aussi revenus de l'exil, s'il y a encore des survivantes de la politique de terre brûlée des années 80 et de ces pratiques de viol massif et délibéré par l'armée pour, en fait, alors, c'est ça qui est très important à dire, excusez-moi, j'ai oublié de dire le plus évident, mais dans les années 80, la politique de la terre brûlée appliquée par l'armée, qui est une politique qui était enseignée dans les écoles militaires et notamment à l'école des Amériques, il s'agissait de, à travers la violence contre les femmes, de faire dégager les communautés pour s'installer sur ces terres, occuper ces terres. Donc, Yolanda, précisément, qui est cette femme, commence avec tout un groupe à faire un travail de recherche des survivantes qui éventuellement sont revenues sur place et à faire un travail donc aussi dans les différentes langues indiennes, bien entendu, avec des interprètes pour savoir si elles veulent, de manière d'abord secrète et confidentielle, entre elles, évoquer ces violences. Après, tout un travail très important, incluant toutes sortes de rituels néo-traditionnel, on va dire comme ça, et mélangé avec des perspectives de thérapie féministe, un certain nombre de femmes finissent par dire, mais en fait, non seulement nous voulons nous soigner, entre guillemets, nous rétablir individuellement, mais nous voulons également faire un travail collectif de mémoire qui est indispensable à une justice qui ne serait pas uniquement une justice dans les tribunaux, mais qui serait une justice de, tout simplement, d'établissement de la vérité. Et elles finissent par, de manière collective, publiquement, faire état de ces violences. Tout ça, je l'ai dit encore très, très rapidement, mais c'est une partie de ces femmes qui, au moment du procès du dictateur Rios Montt, en 2012, finissent par témoigner collectivement de ces violences sexuelles. Et c'est leur témoignage, c'est le témoignage de 19 de ces femmes qui emportent, disons, la décision de la juge pour établir les intentions et les faits de génocide. Donc c'est un d'une certaine manière un petit peu paradoxal que des violences sexuelles contre des femmes permettent d'établir un génocide global. Mais enfin, c'est le témoignage de ces femmes qui permet de faire pencher la balance et de condamner le dictateur. Ça, c'est toute une première partie de la discussion. Une deuxième partie de la discussion, c'est comment, à la faveur de cette lutte et à la faveur de transformation dans la nouvelle période qui s'ouvre de paix ou de démilitarisation, comment des femmes indiennes, mais dont celle-là, commencent à prendre un nouveau rôle et à créer de nouvelles organisations.